Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h57, nous sommes le mardi 27 novembre 2018, ce qu'on appelle en interne à Europe 1, le jour d'après. C'est en effet notre deuxième jour dans nos nouveaux locaux de la rue des Cévennes à Paris, et comme il disait dans La Haine...
Jusqu'ici tout va bien.
Ouais. Ouais, jusqu'ici, tout va jusqu'ici bien. Ouais. Hier, on a presque pas foiré le carillon de 5h, hein, un ratio satisfaisant d'un son sur 18 lancé correctement a été atteint. Faut dire qu'il régnait hier dans ce studio en régie une certaine fébrilité commune à toutes les premières fois. Aujourd'hui, on devrait revenir à notre meilleur niveau, surtout mes complices Eva Roque et Céline Dacosta qui vont vivre ce matin un rêve éveillé puisque leur idole, le navigateur François Gabart, sera notre invité
exactement.
À 6h20.
Ah mon Dieu!
J'imagine, mesdames, que l'excitation, oui, est grande.
Ah oui.
Vous tâcherez quand même de vous tenir, pas comme la dernière fois, notamment en vous gardant de le surnommer Petit Bonhomme.
Mais mon petit bonhomme, François Gabart.
Petit bisou. Ah oui, petit bisou.
Essayons quand même de rester digne de la fonction journalistique, Eva. Eva, quelle question avez-vous choisi de poser à nos auditeurs ce matin?
Alors, Le Parisien titre sur le fait que nous serions moins généreux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous ne donnez plus à des associations?
Vous, mais oui, si mais ça ne concerne pas forcément
Et voilà, exactement. Si vous donnez à quelles associations et quelles sont les causes qui vous mobilisent au quotidien?
Et combien,
voilà.
On se dit tout.
Et combien, exactement.
Merci, Eva. Céline Dacosta, deuxième jour seulement en rue des Cévennes. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver votre chemin, Céline?
Non, l'adresse que j'ai mis sur mon GPS, je suis arrivée, mais par derrière.
Oui, bon, par devant.
Oui, bah, je suis arrivée.
Peu importe, l'important c'est d'être là, effectivement.
Exactement.
Un mot de la météo, Céline.
Bah, c'est plutôt nuageux, pluvieux sur quasiment tout le pays, avec quelques éclaircies quand même ce matin en région parisienne. Le soleil, si vous le voulez, il faudra aller dans le sud-est aujourd'hui.
Comme souvent. Merci, comme souvent. Céline. Vous écoutez. Debout les copains, c'est parti avec cette question. Le carillon de 5 heures sera-t-il aussi pourri qu'hier? Suspense.
Je suis sûre que non. Nous sommes le mardi 27 novembre aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Europe 1. Yeah, il est 5 heures, très bon réveil.
C'est très très propre. Le premier journal de ce mardi 27 novembre, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Les titres.
Un discours pour tenter d'apaiser la grogne des gilets jaunes. Emmanuel Macron doit dévoiler ce matin des mesures en faveur des ménages dans le secteur de l'énergie notamment. Il s'agira pour un président directement visé par la colère de ne pas donner l'impression de céder face à un mouvement qui se structure, du moins qui le tente. 8 représentants élus, mais ils ne sont pas reconnus par l'ensemble des gilets jaunes. Et puis s'ouvre aujourd'hui la 34e campagne des Restos du Cœur. Nous irons en Moselle dans un centre où, en plus de distribuer des repas, les bénévoles aident ceux qui en ont besoin à retrouver le goût du travail.
Europe 1.
C'est aujourd'hui Emmanuel Macron en première ligne face aux gilets jaunes. Le président dévoile ce matin, 10h30 depuis l'Élysée, le projet du gouvernement pour la transition écologique, mais aussi des mesures pour tenter de calmer la colère qui s'exprime depuis 10 jours maintenant. Alors que va annoncer le chef de l'État? Des mesures concrètes en faveur de la rénovation énergétique, comme le retour au crédit d'impôt pour l'installation de fenêtres double vitrage, mais aussi un effort des banques pour l'achat d'un véhicule moins polluant ou encore mieux régulé, notamment la hausse du prix de l'électricité. Tout cela face à un mouvement gilet jaune qui se structure, enfin qui tente de se structurer. 8 communicants officiels ont été élus hier, des délégués régionaux, mais ils sont loin de faire l'unanimité au sein notamment de ce groupe de gilets jaunes à Fréjus.
Oui, il faut s'organiser, oui, mais il faut que les porte-paroles viennent dans chaque point de toute la France, parce qu'on n'a même pas été concerté. Voilà. On ne sait même pas qui il est, ça se trouve, on ne l'a jamais vu dans la rue, le mec.
On n'était pas au courant.
Vous êtes favorable, vous dites que
on
c'est
est favorable,
bien.
Oui, oui, mais il faudrait.
Au moins des responsables, comme ça, on ne peut pas dire que c'est le FN qui récupère ou Mélenchon, tout ça.
Il ne faut pas de porte-parole, tout le monde peut porter sa propre parole. Mais s'ils mettent un porte-parole, c'est trop facile, ils vont l'acheter, comme ils ont toujours fait, ils vont le manipuler. Ouais, ils vont lui donner une raison d'exister. Ça va faire un gros machin et ça va se terminer.
On calme tout.
Des propos recueillis par Frédéric Michel. Les commerçants des Champs-Élysées sont de leur côté toujours inquiets parce qu'un nouvel appel à manifester est lancé pour samedi. On apprend ce matin que les dégâts, par exemple, sur la boutique Dior s'élèvent à 1 million d'euros. Le mouvement nourrit en tout cas les débats parlementaires. La France Insoumise, le PCF ont relayé hier dans l'hémicycle les revendications. Le Sénat, majoritairement de droite, a voté symboliquement le gel de la hausse de la taxe sur les carburants prévue au 1er janvier prochain. Décision qui a peu de chances d'être validée à l'Assemblée l'Assemblée nationale. Enfin, sachez qu'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, s'envole aujourd'hui pour la Réunion où la situation reste très crispée. Le député insoumis de la Réunion, Jean-Hugues Ratenon, a d'ailleurs brandi hier soir un gilet jaune à la tribune de l'Assemblée.
Europe 1, il est 5h02.
Un haut fonctionnaire du Sénat arrêté par la DGSI, Benoît Kendé, est soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Il a été placé en garde à vue et est interrogé par les services de renseignement. Benoît Kendé a consacré plusieurs travaux à la Corée du Nord. Il y a voyagé à plusieurs reprises depuis 2005. Les détails dès le début du journal de 5h30.
Lancement aujourd'hui, Jérôme, de la nouvelle campagne des Restos du Cœur.
34e campagne, déjà 180 millions de repas distribués, 860 000 personnes accueillies l'année dernière. Mais les restos, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de l'accompagnement scolaire, du microcrédit et de l'aide pour le retour à l'emploi et l'accès au logement. Reporter Arthur Mbaché dans un centre mosellan des Restos du Cœur.
Ils regardent leurs mains et ça les rend heureux, Ricardo et François, les mains abîmées par le travail manuel dans le froid, ici dans les Vosges du Nord.
Ben là, on est en train d'ôter la saleté qu'il y avait sous les toits parce qu'elle est tombée par terre, on est en train de tout nettoyer. On fait du rangement aussi, on fait de la peinture, on travaille le bois, jardin. Je suis très content, quoi. Moi, ouais, je me sens bien ici. Parce que ça fait un moment que j'étais plus dans le travail. Je me sens bien, quoi. Hein. Parce que ça me redonne une vie normale. Et quand on rentre le soir, on se sent bien content de soi, quoi. Hein. Ici, je me sens quand même un peu beaucoup utile, quoi.
Ici, tous les midis se retrouvent côte à côte les bénéficiaires du chantier d'insertion et ceux de la résidence sociale juste à côté, gérée également par les Restos du Cœur. Emmanuel est un des deux salariés des restos qui travaillent ici.
Les gens connaissent les restos, mais restos alimentaires. Il y a plein d'activités autour qui sont parfois plus nécessaires parce qu'en fait, l'insertion pro, ben, c'est bien souvent la base pour se loger, pour se nourrir, voilà, tout simplement.
En plus des deux salariés, il y a évidemment des bénévoles qui se comptent en ce moment sur les doigts de la main et qui disent « ça ne suffit pas, il nous faut du monde ». Schorbach, Arthur Mbaché, Europe.
Donald Trump, je cite le président américain, ne croit pas aux conclusions du rapport de son propre gouvernement. 300 scientifiques qui mettent en garde contre les conséquences désastreuses du changement climatique sur l'économie américaine. Des pertes de centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle. Et puis, Mathieu, je vous l'annonce à tous, ça y est, on est sur Mars. La sonde américaine InSight s'est posée sur la planète Rouge.
Mais quand est-ce qu'on y va, nous ? C'est la question que se pose la scientifique aux gens de la NASA.
Elle a même envoyé de premières photos. C'est le résultat de 7 ans de travail et le sismomètre français. C'est pour ça que je me permets de dire « on est sur Mars ». C'est un peu
chauvin,
le sismomètre français que la sonde transporte. Va écouter le cœur de Mars pour mieux la connaître et comprendre aussi comment est née la planète.
Merci Jérôme Lacroix. Alors, on n'a pas de secret pour nos auditeurs, surtout à cette heure. Si vous me disiez hors antenne, l'actu c'est pas mal, mais ça me saoule vite. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller soit GG, passons donc au journal des sports. À la une, Lyon, bah ça vous rappelle tant de souvenirs.
Oui.
Les goûter au Weetabix devant extrême limite.
Exactement.
À la une, oui, on a eu la même adolescence. À la une, Lyon, objectif qualification.
Objectif qualif en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les footballeurs rodaniens ambitieux ce soir. Un succès pour l'avant-dernier match du premier tour. Les qualifieraient assurément. Problème, l'adversaire du soir se nomme Manchester City, premier du championnat d'Angleterre. Une seule défaite cette saison et c'était contre qui ? Eh bien contre Lyon, le 19 septembre dernier. Dernier au match aller. Rééditer l'exploit serait parfait ce soir, sauf que maintenant, les mancuniens du défenseur français Aymeric Laporte sont prévenus.
Chaque fois que tu perds, t'as envie d'une revanche. On sait très bien que c'est une des grandes équipes d'Europe. On sait très bien qu'ils ont de grands joueurs aussi. Il faut être attentif, il faut être concentré tout au long du match et essayer de faire notre match, d'être à la hauteur de ces grandes occasions.
Des propos recueillis par Jean-Luc Boujon pour Europe 1 Lyon-Manchester City, coup d'envoi 21h à la même heure dans les autres groupes. Bayern Munich-Benfica et AS Roma-Real Madrid notamment.
Un petit résultat de Ligue 2,
oui,
Jérôme.
Oui, parce que les joueurs de Metz comptent désormais 3 points d'avance sur Brest en tête du classement après hier. Leur petit succès 1-0 à domicile face aux Ajacciens du Gazélec, c'était la fin de la 15e journée.
Le rugby et la bien mauvaise période actuelle du 15 de France ne touchent pas seulement les joueurs et le staff.
Inquiétude également des salariés de la Fédération française, marquée notamment par l'image samedi dernier d'un stade de France bien peu garni alors que dans le même temps sur le terrain, les Bleus étaient battus par les Fidji. Simon Rubin.
Dans les bureaux de Marcoussi, on ne s'en cache pas, on est inquiet. Bien sûr, il y a les résultats sportifs, mais à la limite, rigole-t-on, on était plutôt habitués ces dernières années à perdre des matchs. Mais c'est surtout le désamour pour le rugby qui a marqué les salariés, et ce jusqu'en haut lieu du côté de la FFR. Un stade de France à moitié vide samedi, c'était du jamais vu, et personne à la fédération ne s'attendait à un tel camouflet. À cela, il faut ajouter une baisse de 4% des licenciés l'an passé. Une baisse qui va se poursuivre en 2018, prédisent déjà certaines ligues régionales. Voilà le tableau global qui est inquiétant, concède-t-on du côté de la fédération. À ce rythme-là, on va se faire dépasser en popularité et en nombre de licenciés par le golf, par le canoë, ironise amer certains cadres fédéraux.
Simon Rubin.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
162 en kilos, c'est le poids en ce moment de Teddy Riner, notre champion olympique de judo. Le journal L'Équipe nous raconte ce matin, Riner en stage au Japon, le pays du judo. Il prépare un retour à la compétition prévue dans 4 mois en Turquie. Il y a quelques kilos à perdre. Un an tout juste qu'il n'a plus
concouru. Vous voulez dire que c'est pas 160 kilos de muscles?
Là, normalement, non. Il est quand même moins. Mais ça fait un an qu'il n'a plus concouru.
Il est prenable, donc.
Objectif Tokyo 2020.
C'est 162 kilos. Il a de la puissance quand même. Il risque de vous mettre KO en 2 secondes.
Oui, je pense aussi. Oui, je ne prendrai pas le risque. Il pond, oui, pas KO. Sinon, c'est un autre type de sport et sinon, il est éliminé.
Vous voulez dire que vous avez dit qu'il était trop gros.
Exactement, voilà. Non, oh mon Dieu. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et justement, le 27 novembre est une date importante dans le sport puisqu'il y a 78 ans jour pour jour naissait Bruce Lee.
Oh
oui. Jérôme, quel mot vous vient à l'esprit pour évoquer la mémoire de Bruce Lee?
Cornichon.
Merci Jérôme, merci. Il n'y a pas à dire, pour parler sport, c'est précieux d'avoir un spécialiste.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de passe en mode zapping. Et puis, oser sortir de sa zone de confort, oser poser sa démission et changer de vie. À 5h10, chaque matin, Europe 1 vous fait découvrir des Français qui l'ont fait. Ce matin, dans Fallait Oser, rencontre avec Audrey et Bastien, des parents qui ont tout envoyé valser pour partir sur les routes en camping-car avec leurs deux enfants.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Et il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue l'heure de faire un premier point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Une journée qui ressemble étrangement à celle d'hier, pluvieuse et grise.
Oui, de faibles averses sur le nord-est pour ce matin. Hein, c'est la perturbation d'hier qui s'est décalée vers l'est. Retour au sec pour cet après-midi sur ce secteur, mais sous un ciel bien bâché. Pour l'ouest, c'est l'arrivée ce matin d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui gagnera un gros quart nord-ouest ce matin. Entre les deux, on aura encore quelques éclaircies, mais ça ne va pas durer puisque les averses gagneront la région centre, le nord, la région parisienne dans l'après-midi. Partout ailleurs, ce sera bien nuageux. Il reste du soleil sur les Pyrénées et surtout près de la Méditerranée, auprès d'un vent assez fort. Quant aux températures, elles sont stationnaires, hein, comme hier. On va même gagner quelques degrés cet après-midi puisque la moyenne va de 8 à 16 degrés du nord au sud. Il fera un petit peu plus frais dans le nord-est. Et ce matin, il fait encore bien frais. On garde l'écharpe et le bonnet.
Merci Céline. Météo complète juste avant 5h30. Eva, beaucoup de messages d'auditeurs déjà?
Oui, parce qu'on leur a posé la question, est-ce qu'ils sont généreux? Est-ce qu'ils continuent à donner à des associations alors que la 34e compagnie, j'allais dire la 34e...
La 7e compagnie,
ça, c'est
un film.
La 34e, je ne vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Des Restos du Cœur va débuter.
La 34e campagne.
Campagne, voilà, je cherchais le mot, exactement. Merci beaucoup. Eh bien, Michel nous dit, la générosité devient rare, faute de moyens, c'est à l'État d'être généreux avec ses concitoyens et après, on verra. Et puis Stéphane, lui, nous dit qu'il est bénévole au Restos du Cœur. Il réalise des collectes et il accompagne aussi les personnes à la recherche d'emploi. Tout ça dans le cadre des Restos du Cœur. Merci. Continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, vous amuse et parfois aussi vous inspire. Chaque matin, à 5h10 dans Fallait oser, Europe 1 vous présente quelqu'un qui a osé changer de vie. Aujourd'hui, je vous présente Audrey et Bastien, un couple de jeunes Lyonnais qui voyagent depuis plus d'un an en camping-car à travers l'Europe avec leurs enfants de 6 et 8 ans. Partis en juin 2017, ils ont parcouru la Suisse, l'Italie du Nord, l'Angleterre, l'Écosse, la Grèce, l'Autriche, l'Irlande et se trouvent actuellement en Espagne.
Alors le couple était déjà parti faire un long périple en amoureux il y a 10 ans, raconte Audrey la maman, puis s'était juré de le refaire avec leurs enfants s'ils en avaient un jour.
Fallait oser. Alors c'est un quotidien qui est très classique dans le sens où on doit faire des courses, on doit s'occuper du linge, mais en plus il faut trouver de l'eau, c'est toujours dans des nouveaux endroits, donc ça c'est plus trop du quotidien, ça casse vraiment la routine, mais il y en a quand même une. Et puis après on fait un peu l'école et puis on part faire la découverte du jour en fonction de là où on se trouve, donc ça peut être une randonnée, une ville ou comme aujourd'hui simplement une plage. Et voilà, et puis retrouver un autre endroit pour le soir, etc., etc. C'est tous les jours, on fait un petit peu de kilomètres, un petit peu de découverte, un petit peu de kilomètres. Et puis voilà.
Alors, ils ne savent pas quand ils s'arrêteront de voyager. Tant que tout le monde est partant, ils continuent.
Alors évidemment, on se pose tous la question en les écoutant, de quoi vivent-ils et comment ils financent ce voyage? Eh bien, réponse.
C'est la question qui revient le plus sur quand on échange avec les gens sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un projet qu'on a mûri depuis 10 ans, donc c'est vrai qu'on a tout mis en œuvre depuis 10 ans avec nos travails respectifs pour économiser un maximum. Et puis dans ce but-là, on avait acheté un appartement qu'on a revendu. Et donc ça nous permet d'avoir un budget déjà pour les 3 premières années. Et puis maintenant avec Internet, on est en train de développer des compétences et de se former nous-mêmes via Internet pour pouvoir trouver un travail ou se créer un travail en tout cas.
Et cette famille tient aussi un blog, Eva, qui s'appelle
Here We Are World.
Mais vous avez bien réussi, je voulais vous planter,
mais
pas
non,
du tout,
je
c'était bien.
En anglais,
Monde nous voici en anglais, effectivement, on y trouve des photos de camping, car dans des endroits sauvages, face à la mer, ça donne vraiment envie des envies d'évasion.
Exactement, et puis si vous aussi, vous avez changé de vie, si vous avez osé sortir des sentiers battus, eh bien écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Et il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous êtes sur Europe 1, nous sommes le 27 novembre 2018, vous écoutez Debout les copains, une émission hybride à mi-chemin de 5 colonnes à la une et d'Interville.
Ouais, wouh.
À suivre, plus proche d'Interville peut-être, à suivre notre page santé et ce message que martèle le docteur Ichou. Stop aux compléments alimentaires, non seulement ils ne servent souvent à rien, mais pire, ils peuvent parfois s'avérer dangereux. Et puis bien sûr, nos bons tuyaux culture et nouvelles technologies arrivent avec notamment une grande simplification en vue si vous utilisez Google comme moteur de recherche, et puis une bataille terrible, celle des droits autour du célébrissime Boléro de Ravel.
C'est Cool and the Gang.
Non, Maurice Ravel. Bon, allez, en attendant, écoutons un peu de musique et celle-ci est idéale pour se réveiller. Love is in the air, John Paul Young sur Europe. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air, Eva Rock. Mais oui, John Paul Young sur Europe.
Oui.
Mmh. Oh oui, joli, oui.
Il est 5h17. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron doit dévoiler à 10h30 depuis l'Elysée des mesures pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes, des mesures pour la rénovation énergétique, comme par exemple le retour au crédit d'impôt pour l'installation de fenêtres double vitrage. Un haut fonctionnaire du Sénat arrêté par la DGSI pour des soupçons d'espionnage au profit de la Corée du Nord, Benoît Quindet a été placé en garde à vue et interrogé par les services de renseignement. Enfin, un portail internet lancé aujourd'hui pour signaler les violences sexuelles et sexistes. Selon les chiffres rendus publics hier par le gouvernement, 130 femmes sont mortes l'an dernier derniers en France sous les coups de leurs compagnons ou ex-conjoints, contre 123 il y a 2 ans.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 27 novembre 2018, mais il serait tout à fait inconcevable, voire criminel, de ne pas vous donner nos pronostics pour les courses hippiques qui auront lieu à Deauville cet après-midi. Et quand je dis nos pronostics, je parle bien sûr de ce Thierry Léger, qui lui, y connaît quelque chose. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Deauville et mon pari gagnant sera le 501 In The Lop. Après avoir passé un très bon hiver l'an dernier à Dubaï, il aura fallu plusieurs mois pour être à nouveau compétitif et retrouver le bon rythme. 2 fois 6e en dernier lieu dans des quintés d'un niveau similaire à celui qui nous intéresse, ces fins de course où il est revenu du Diable Vauvert terminé en trombe me laisse à penser qu'il devrait pouvoir dès cet après-midi renouer avec la victoire qu'il n'a pas connue depuis plus d'un an. Alors notez bien, pour Deauville, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 1, In The Lop.
C'est noté, merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec ce moment privilégié du petit matin où tous les membres, petits et grands, de la colloque DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner. Jérôme Lacroix saute dans un caleçon, Eva et Céline se maquillent, parfois c'est l'inverse. Car oui, après l'actu et le sport, le transformisme est la troisième passion de Jérôme Lacroix qui, certains matins, aime à surprendre ses collègues avec un peu de fond de teint et un trait de rimmel sur les yeux. La dernière fois, le gag avait marché au-delà de ses attentes, n'est-ce pas Eva?
J'ai cru que c'était Amanda Lear qui était dans le studio.
Un beau souvenir, mais reprenons nos esprits car voici le pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos journaux ce matin, le Parisien titre « Pourquoi sommes-nous moins généreux ?» alors que plusieurs associations constatent une baisse importante des dons des particuliers. Libération regarde encore du côté de l'Elysée avec Macron vert pâle face aux gilets jaunes. L'environnement sera le sujet du jour pour les échos. Transition écologique, Macron a un tournant. Mais vous, mes insatiables fripons, qu'avez-vous déniché dans les journaux? On commence par vous Eva.
Alors Maïder Gérard, qui est journaliste à Libération, nous embarque ce matin aux îles Féroé, à la limite de l'Atlantique Nord et de l'Arctique. Alors là-bas, raconte la reporter, la nourriture est rare et difficile d'accès. C'est du côté de la mer qu'il faut se tourner pour trouver des ressources et les baleines sont ainsi devenues une proie de choix qui est source de protéines vitales pour la population. Alors de quoi faire bondir les associations de défense des animaux, car la pêche à la baleine est particulièrement violente. Vous avez sans doute déjà vu ces images de cétacés alignés sur le sable au bord d'une mer de sang. Un documentaire reprend 30 ans de recherches établies par un médecin local et révèle que les Féroéens s'empoisonnent en consommant ces mammifères, victimes de la pollution des océans. En fait, les baleines présentent une concentration très élevée en mercure et en polluants organiques persistants dans leur chair. Le médecin a observé les conséquences sur les enfants, dont les mamans en fait consommaient de la baleine depuis longtemps. Temps de réaction ralenti, difficulté avec le langage, la mémoire, risque accru de développement de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Et le médecin a bien du mal à se faire entendre face à des Féroéens qui s'accrochent en fait à cet héritage culturel, notamment aussi en réaction aux campagnes agressives des associations de défense des animaux qui les montrent, qui ne cessent de les montrer du doigt. Alors l'avenir passera sans doute par les femmes, reconnaît le médecin, parce qu'elles acceptent en effet de consommer moins de baleines et arrêtent souvent avant une grossesse. Si les pressions extérieures s'arrêtent, explique le praticien, eh bien la population écoutera mes arguments et cessera cette pratique. Mais cela envoie aussi un message au reste du monde. Regardez ce que vous avez fait de nous, de nos enfants, de nos traditions à cause de votre pollution irresponsable. C'est un excellent papier à lire dans Libération ce matin.
Très surprenant. Oui. Merci beaucoup Eva pour ce choix. Céline Dacosta, qu'avez-vous repéré pour nous dans la presse du jour?
Un article trouvé dans le Figaro avec ce titre « Le cannabis n'est plus une drogue de jeunes ». On y apprend que les
ados... Tiens donc, le Figaro s'y met.
Ouais. Ouais. Parce que ceux qui consommaient ados, maintenant,
ils sont vieux.
Exactement, oui. Ça bah, c'était ma troisième phrase.
Donc, ah, bien joué Jérôme. Non, oula là Jérôme, vous ne marquez pas des points avec Céline.
C'est bien vu. Non, non, mais c'est bien vu. C'est vrai.
Alors que du coup, on n'interrompt jamais Céline pour dire des bêtises.
Non, mais c'était pas des bêtises, c'est bien vu. C'est vrai, dans les faits, l'utilisation de ce produit concerne majoritairement la tranche des 18-25 ans, où plus d'un jeune sur 4 déclare avoir déjà essayé, mais le nombre d'actifs adultes consommateurs vient grossir les troupes. Les ados, comme l'a dit Jérôme, qui fumait à la fin des années 90 ou au début des années 2000, ont vieilli.
Je ne vois pas de qui vous parlez.
Si la plupart ont arrêté le pétard au-delà de 25 ans, beaucoup ont continué. Une étude faite par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies montre une augmentation importante chez les 35-44 ans. Vous êtes pile dans la tranche.
Ben, j'ai 36, hein, je le rappelle. Je suis au début de la tranche, hein, je le rappelle.
36.
Eva, arrêtez de dire n'importe quoi.
D'accord.
Voilà, c'est ça, sans les taxes.
Je vous en prie, mais vous êtes odieux.
Sans la TVA. Oh. la prendre en compte, ils ont raison. Alors à l'inverse, pour les plus jeunes, une dernière étude montrait un léger recul de la consommation.
Ah quand même,
parce que les jeunes,
nouvelle.
Bah non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils se tournent plus vers l'alcool avec la mode du binge drinking.
Ah oui, effectivement. Voyez,
alors j'ai regardé ce que c'était binge drinking. Alors je sais que c'est se saouler très vite.
C'est
alors,
boire le plus rapidement possible.
Il y a marqué
possible,
biture
en fait.
Express ou beuvre.
Ah, c'est difficile à dire.
Beuverie effrénée, j'aimais bien ça.
Ah, c'était plus joli, oui.
Dont l'article nous dit aussi qu'au-delà des variations d'âge, depuis 3 décennies, la diffusion de cannabis n'a cessé de progresser, que 44,8% des Français ont déjà expérimenté du cannabis. On apprend aussi que les vieux fumeurs sont plus adeptes de l'autoculture que du deal de rue. Ça cultive à la maison, tranquille.
C'est vraiment toujours fleuri, les expressions du Figaro. Hein.
Alors, c'est-à-dire dans le Figaro. Et pour finir, j'ai quand même jeté un coup d'œil au pays où le cannabis est légal. Il y en a beaucoup, hein. Je ne les donne pas tous. Le plus récent, c'est le Canada, puisque c'était en octobre, là, en 2018. Il y a évidemment les Pays-Bas, certains États aux États-Unis. En Espagne, il est autorisé de fumer chez soi, pas en public. C'est dépénalisé aussi au Portugal. Et puis, il y en a d'autres. Mais je vais terminer par la Suisse. Est-ce que vous connaissez la position de la Suisse sur le cannabis?
Je ne la connais pas actuellement. Moi, dans ma jeunesse, c'était dépénalisé. C'est-à-dire pas légal, mais dépénalisé. On avait le droit aussi, je pense.
Alors, depuis 2012, alors c'est ça votre jeunesse? 2012, non, c'était. Depuis 2012,
ah non, 2012
les Suisses ne sont plus poursuivis pénalement s'ils possèdent au maximum 10 grammes de cannabis. Mais attention, même en possédant cette quantité tolérée, un Suisse encourt toujours une amende de 100 francs suisses.
Ça fait pas que ça fait beaucoup, 100 francs
Oui, 100 francs suisses, ça fait beaucoup, oui.
Ça fait combien?
Bah, ça fait. Ça fait au moins 80 euros.
Ah oui, d'accord. Mmh. Je pensais que c'était beaucoup
non, c'est
plus
pas plus,
d'accord,
mais
d'accord.
C'est quand même une somme. Bon, mais écoutez, je vais retourner en Suisse rapidement pour prendre des nouvelles et enquêter sur le terrain. Je pense qu'en tant que journaliste, c'est important d'enquêter pour vérifier vos dires et vérifier les dires du Figaro aussi.
Bien sûr.
J'irai donc me sacrifier pour le journalisme. Jérôme Lacroix, qu'avez-vous choisi pour nous dans la presse?
L'alcool.
Comme ça, on a fait le tour.
Plusieurs de vos journaux ce matin, Ouest France, Le Parisien, j'en ai vu un peu partout, qui nous racontent l'histoire de Lulu et Nana, des jumelles chinoises, et elles sont âgées
Lulu la nantaise.
Non, elles sont âgées de quelques semaines seulement, mais les yeux du monde entier sont déjà braqués sur elles, parce que Lulu et Nana, alors au dire d'un scientifique, hein, je précise tout de suite, je vais raconter quelque chose, mais s'il faut, c'est une énorme fumisterie, je vais vous en parler.
C'est bien de prendre des pincettes.
Soyons honnêtes. Lulu et Nana, au dire d'un scientifique, sont les premiers bébés de l'histoire de l'humanité génétiquement modifiés. Vous avez peut-être vu ça. Alors pour l'instant, on le dit, je le répète.
Quel pays?
Ah ben, en Chine, sur la base du seul témoignage de ce chercheur chinois qui vient de poster une vidéo récit de son travail sur YouTube. Et on devrait en savoir plus, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, au moins déjà sur l'authenticité de la chose, aujourd'hui, parce que s'ouvre à Hong Kong un sommet scientifique. Alors, quel était le but d'abord de ce professeur, chercheur reconnu, un chinois? L'objectif est d'aboutir, dit-il, à la naissance d'enfants protégés contre le VIH, c'est pas rien, issus de couples dont seul l'homme est porteur du virus. 7 grossesses ont été lancées, une seule est allée au bout. Lulu et Nana, des jumelles, sont donc nées. Alors comment aurait-il procédé ce chercheur? Il s'est un peu pris pour Victor Frankenstein, un seul dans son labo, en cachette de ses supérieurs. Il a utilisé une technique révolutionnaire, mais présentée comme simple.
Mais en cachette, même en Chine, en cachette de ses supérieurs.
Que, oui, parce que vous allez entendre, ensuite ils se sont, la communauté scientifique chinoise s'est désolidarisée de ce professeur. Il a utilisé une technique dont je disais révolutionnaire, mais présentée comme simple. Dans le Figaro, la modification de l'ADN, alors que l'être vivant n'est encore qu'un amas de cellules. On prend un brin d'ADN, on le modifie via l'injection d'un enzyme, je simplifie vraiment énormément, et on implante le tout dans l'utérus de la mère. Alors à l'annonce de ses naissances, cascade d'indignation, vous imaginez bien toutes les questions éthiques qu'il y a derrière ça. D'abord l'université donc des sciences chinoises, qui s'est tout de suite désolidarisée du scientifique, qui a selon la communauté chinoise, je cite, « violé l'éthique, une enquête est lancée ». En France, le Figaro a interrogé le président du comité d'éthique de l'INSERM, une telle pratique serait interdite en France et dans une grande partie de l'Europe. Il le rappelle, de très nombreux scientifiques estiment, si l'expérience est avérée, qu'une ligne rouge, clairement, a été franchie.
Encore faut-il que ça soit vrai,
Oui, mais même si c'est vrai, techniquement ou pas, ça pose des questions éthiques de toute façon, parce qu'un jour on y arrivera, on sait qu'on arrivera à ce genre de modification génétique. Merci beaucoup Jérôme, c'était fort intéressant. Un mot quand même avant de refermer ce pressing, Jérôme, que je fasse semblant de prendre Eva Rock pour une cruche, ce qu'elle n'est évidemment pas, c'est mon métier, mais vous, que vous le fassiez au premier degré, voilà qui est vexant.
En tout cas, le capitaine Yannick Noah attend de tous ses hommes qu'il lâche les chevaux.
Qu'il lâche les chevaux, cette expression.
Non, tu connais pas?
je pense qu'elle connaît, en fait, je la trouvais juste désuète.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, tu connais? Ça continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Folle dingo réveil à l'écoute d'Europe 1.
faites le plein de bonne humeur avec Anne Roumanoff.
Bonjour à tous.
Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
On joue avec Mickaël. Vous êtes enseignant dans le Nord. Vous avez des élèves de quel âge?
Ils ont entre 14 et 18.
Oh là, ils sont turbulents.
C'est un peu comme vous avec vos chroniqueurs, il faut les tenir.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Rendez-vous tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, un point sur la météo de ce 27 novembre qui ressemble étrangement à la météo du 26 novembre.
Oui, une journée mitigée avec un ciel encore bien couvert et de faibles pluies sur le nord-est, de la neige sur les reliefs des 400-600 mètres et puis on a cette nouvelle perturbation qui est arrivée dans la nuit et qui arrive en ce moment sur la pointe bretonne avec là aussi des averses. Entre les deux, le temps va rester sec, on aura peut-être même quelques éclaircies ce matin et puis le soleil, on le retrouve largement sur les Pyrénées et près des côtes méditerranéennes au prix d'un vent assez fort, un mistral qui va souffler jusqu'à 90 km à l'heure. Cet après-midi, les averses présentes à l'ouest vont se renforcer et gagner le centre et le nord. Elles descendront jusqu'au Poitou-Charentais et au Limousin. Les régions à l'est resteront sous les nuages, mais avec un temps plus sec. Et pour une frange sud, le soleil sera toujours bien présent, avec toujours ce vent assez fort près de la Méditerranée.
Un mot des températures, Céline?
Sensiblement la même chose qu'hier cet après-midi, avec une moyenne de 7 à 13 degrés sur la moitié nord, 8 à 16 pour la moitié sud. Ça restera frais uniquement dans le nord-est, hein, puisque là, on ne dépassera pas les 6 degrés. Et puis ce matin, c'est encore frais. 1 degré à Cognac, 2 pour Bordeaux et Rennes, 4 à Mulhouse, 5 à Lille, 6 à Paris et Lyon, 8 à Brest, 9 à Ajaccio et 10 degrés en ce moment à Perpignan.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dit oui à l'info mais non à l'amorosité, comme lorsque je chante aux débeautés.
So far away from LA.
Oui, je crois qu'il faut hélas se rendre à l'évidence, alors que c'était techniquement impossible dans nos anciens locaux, ici dans le nouveau studio Lagardère. Moi aussi,
oui,
je suis enregistré pendant la pub, j'essaierai d'en tirer les conséquences en fermant ma gueule. À suivre, notre page santé, le docteur Ichou nous dira pourquoi il faut à tout prix éviter de céder aux sirènes des compléments alimentaires, inutiles au mieux, dangereux au pire. Et puis évidemment, ce sera mardi les bons tuyaux. Au programme aujourd'hui, du neuf chez Google qui veut encore vous simplifier la vie. Une offre culturelle de qualité vraiment pour tous et vraiment gratuite. Et puis figurez-vous que le Boléro de Ravel est au cœur de l'actu, mais pourquoi? Je crois que c'est ce qu'on appelle créer un suspense hitchcockien.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce mardi 27 novembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Une affaire d'espionnage au profit de la Corée du Nord et c'est un fonctionnaire du Sénat qui est mis en cause. Détail dans un instant. Annonce très attendue d'Emmanuel Macron ce matin pour répondre à la fronde des Gilets jaunes, rénovation énergétique ou encore crédit pour acheter des voitures moins polluantes. Et puis, amarcissage réussi pour la sonde InSight de la NASA, on ne dit pas atterrissage. Elle s'est posée sans encombre sur la planète Mars, sous le regard ému de scientifiques français impliqués dans l'aventure.
Europe 1.
Le Sénat cachait-il, sans le savoir, un espion de la Corée du Nord? En tout cas, un haut fonctionnaire de la Chambre haute a été arrêté dimanche soir par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, Benoît Quindet, et soupçonné d'avoir transmis des informations au régime de Kim Jong-un. Pierre de Cossette.
Cela faisait 8 mois qu'ils enquêtaient, 8 mois que les policiers de la DGSI tentaient de cerner le profil de cet ancien élève de l'ENA, devenu administrateur au Sénat à la direction du patrimoine et des jardins, est notoirement connu en interne pour son intérêt pour les Corées, en particulier celle du Nord, où il s'est rendu à près de 10 reprises. Il est d'ailleurs président de l'association d'amitié franco-coréenne. De l'amitié, peut-être plus que ça pour Benoît Quindet. On le suspecte d'avoir pu recueillir et livrer des informations à une puissance étrangère, informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà pourquoi, en mars dernier, le procureur de Paris a demandé aux experts du contre-espionnage d'y voir plus clair, et voilà pourquoi, avant-hier, les enquêteurs ont interpellé le fonctionnaire du Sénat à son retour de Bourgogne. Garde à vue, puis perquisition chez ses parents, chez lui et hier au Sénat. Enquête extrêmement sensible sur des faits passibles de 30 ans de prison et grande prudence d'un connaisseur qui nous parlait hier de possible trahison en se gardant bien d'évoquer le fond du dossier.
Pierre de Cossette, et rappelons que depuis plusieurs années, des sanctions économiques sont appliquées contre la Corée du Nord pour l'obliger à renoncer à son programme de missiles nucléaires.
Emmanuel Macron attendu au tournant par les Gilets jaunes.
Et c'est ce matin, en effet, à 10h30 que le président doit annoncer les mesures pour calmer leur colère. Un pacte social d'accompagnement de la politique de transition écologique, dit-on à l'Élysée. Mais a priori, pas question de supprimer la hausse prévue des taxes sur le carburant. Selon les informations d'Europe 1, il y aurait notamment des mesures en faveur de la rénovation énergétique, des crédits pour acheter des voitures moins polluantes ou encore un contrôle de la facture d'électricité. Sur l'île de la Réunion, le préfet annonce déjà une baisse des prix des carburants et du gaz dès aujourd'hui, et cela à la demande de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle sera d'ailleurs sur l'île dès demain pour faire des annonces sur le coût de la vie et l'emploi. Le terrible chiffre des violences conjugales, 130 femmes mortes l'an dernier en France sous les coups de leurs compagnons ou ex-conjoints, contre 123 en 2016. Un fléau que le gouvernement promet de combattre. D'ailleurs, un portail internet est lancé aujourd'hui même pour signaler les violences sexuelles et sexistes. Les victimes pourront ainsi entrer en contact avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés.
Europe 1, il est 5h33.
Mission accomplie pour la sonde américaine InSight qui a réussi à se poser sur Mars hier soir.
Oui, après un voyage de 7 mois et 485 millions de kilomètres, elle doit aider les scientifiques à comprendre la formation de la planète rouge et par extension celle de notre Terre, grâce à des relevés de température mais aussi des relevés sismiques en utilisant une technologie développée par le CNES en France. Hier d'ailleurs, plusieurs scientifiques qui ont participé à cette aventure étaient présents à la Cité des Sciences à Paris. Aux côtés du public, ils ont suivi en direct ce moment à la fois stressant et émouvant. Rémi Botsaron assistait aussi à cet amarcissage.
Quand l'atterrisseur approche de la surface de Mars, la tension monte dans l'auditorium. Les scientifiques, leurs proches, le public, tout le monde regarde sur l'écran géant s'activer la salle de contrôle de la NASA. Depuis la Californie, une voix annonce chaque étape de l'atterrissage. Et enfin, c'est la libération. Immédiatement, un homme est invité à monter sur scène. C'est Philippe Lognonnet, l'homme qui a conçu avec son équipe le sismomètre embarqué dans cette mission. Cela fait 30 ans qu'il y travaille.
Excusez-moi, je vais d'abord commencer par remercier ma famille. Merci à tous ceux qui ont bavé.
À sa descente de la scène, l'émotion est toujours présente.
C'est une grande partie de ma vie. C'est un moment que toute l'équipe a attendu. On a échangé beaucoup pendant l'atterrissage. On est soulagés et puis très heureux.
À sa sortie dans le hall, le scientifique est acclamé par la foule et notamment par Frédéric et Karine.
De vivre comme ça en direct, c'est quand même impressionnant. On croise tous les doigts en se disant pourvu que ça marche.
On espère comprendre le monde, qui on est, d'où on vient. C'est fabuleux, quoi. J'étais très touchée, moi.
Et puis maintenant, on attend les résultats.
Des résultats qui seront utilisés notamment dans les établissements scolaires dès la rentrée prochaine.
Rémi Botsaron. Et puis c'est la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur qui s'ouvre aujourd'hui. L'hiver dernier, 130 millions de repas avaient été distribués à 860 000 personnes. L'association s'inquiète de l'âge des bénéficiaires, de plus en plus jeunes. Lors de la dernière campagne, 38% étaient mineurs et la moitié avait moins de 25 ans.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani. Nico Saliegas, qui présente la matinale, vient de passer une tête dans ce studio. Ça me rappelle que Hélène présente également le journal de 7h dans la matinale de Nico Saliegas. Le gentleman grec qui d'ailleurs vendredi, pour sa dernière dans les locaux de la rue François 1er, n'a pas manqué de lui rendre un hommage tout en finesse.
Sur le carillon de 1955, il est 7h.
Elle n'a pas bougé, elle ne bouge pas depuis toutes ces années. Hélène Zelani pour le journal. Bonjour Hélène.
Eh oui, 1955, vos débuts, quand vous guinchiez à l'Alcazar avec Françoise Giroud. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs de votre idylle avec Maurice Chevalier. Mais passons, nous n'avons pas le temps, car voici le journal des sports de Jérôme Lacroix.
C'est faux, en plus Hélène, elle est encore plus belle.
Oh, mais le maillot ultime. Vous pouvez pas être sur tous les dossiers à la fois. Concentrez-vous sur Céline. À la une, Jérôme, des nouvelles rassurantes.
Si vous suivez les footballeurs du PSG ou plus globalement les équipes françaises en Ligue des Champions, demain rencontre charnière pour ces Parisiens. PSG-Liverpool, avant-dernier match du premier tour. Surtout ne pas perdre, sinon le risque d'une élimination dès le premier tour serait immense. Et c'est dans ce genre de match qu'on attend les très grands joueurs. Problème, deux des plus grandes stars parisiennes, Kylian Mbappé et Neymar, se sont récemment blessés avec leurs équipes nationales. Ils étaient au repos depuis 8 jours, mais hier, ils ont repris l'entraînement. Simon Rubin.
Du côté du PSG, on est plutôt serein. D'abord parce que Kylian Mbappé a poursuivi son retour. Après le coup à l'épaule reçu avec les Bleus, les nouvelles sont rassurantes. Il devrait bien tenir sa place contre Liverpool demain. Pour Neymar, l'inquiétude était plus grande, mais lui aussi a pu participer à une séance courte hier, sous l'œil de sa garde rapprochée, notamment son kiné et son physiothérapeute. Mais le staff se veut toutefois prudent. Une blessure aux adducteurs doit être surveillée et selon toute vraisemblance, la décision de le faire jouer ou non sera prise le jour du match. D'ici là, là. Aujourd'hui, une nouvelle séance d'entraînement est prévue et devrait permettre de lever les doutes quant à l'état de forme du Brésilien.
Simon Rubin, PSG-Liverpool, 21h demain.
Mais dès ce soir, Jérôme, Lyon.
Et oui, Lyon-Manchester City, un exploit, une victoire comme au match aller en septembre. Et les Rodaniens seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Ces Lyonnais, les seuls à avoir battu cette année, ces Mancuniens. Les battre encore est-ce possible ? Bruno Genesio, l'entraîneur, a potassé ses fiches.
Si on se contente uniquement de défendre contre ce genre d'équipe, on est à peu près sûr, à un moment donné, de subir un exploit individuel, de subir un but exceptionnel, un coup de pied arrêté. On attaquera ce match avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec de l'ambition, parce qu'on est chez nous, parce qu'on sait que c'est aussi notre jeu, que ce sont nos qualités. Surtout, n'avoir aucun regret à la fin de ce match.
Bruno Genesio avec Jean-Luc Boujon, Lyon-Manchester City, coup d'envoi 21h.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Sophia Florch, allemande, 17 ans. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, cette jeune pilote accidentée il y a 8 jours en Formule 3. Accident très impressionnant sur le très dangereux circuit de Macao en Chine. Sa monoplace s'était envolée à plus de 200 km à l'heure. Elle annonce qu'elle rentre en Allemagne après sa lourde opération. 10 heures pour réparer une fracture de la colonne vertébrale. Sa vie continue une seconde naissance, comme elle l'a écrit sur ses réseaux sociaux.
Merci Jérôme Lacroix, et si vous le permettez, j'ai ce matin pour votre épouse, Madame Lacroix, un message personnel que je vais m'efforcer de délivrer avec la même emphase que Jean Dujardin dans SS 117. Madame Lacroix, j'aime tes pancakes.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Car la femme de Jérôme nous avait préparé des petits pancakes hier matin. C'était
mais
bien
au
agréable
SS 117,
à la
il
sortie.
Aurait dit j'aime vos pancakes. Vous voyez, c'est plus distingué, je trouve, non ?
Bon, Eva, allez passer par la compta et puis on en reparlera. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses, délicatement badigeonnées d'une couche d'humour en compagnie d'Eva Rock et Céline Dacosta. À suivre, mardi, les bons tuyaux, un grand shoot d'actu culturel 100% légal pour épater vos collègues à la machine à café. Et puis notre page santé. Et Eva ?
Comment ça va ?
Je vais bien.
Vous avez bonne mine.
Si je vais bien, c'est Juvamine.
Et non Eva, si je vais bien, ce n'est pas forcément Juvamine. On nous aurait menti, ce sera en substance le message du docteur Ichou qui nous dira une fois de plus tout le mal qu'il pense des compléments alimentaires, surtout en automédication.
C'est dément quand
oui.
même
oui.
Pendant que je me crève le cul
oui. Mais non, mais calme
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Ma chère Céline Dacosta, on parle météo avec vous. Une journée qui ressemble à celle d'hier, c'est gris, c'est pluvieux.
Oui, c'est vrai, avec des températures
c'est
de
bof.
Saison et même quelques degrés en plus pour cet après-midi, puisque la moyenne ira de 8 à 16 degrés du nord au sud. La fraîcheur persistera dans le nord-est, hein, 3 degrés à Mulhouse ou 5 à Metz. Côté ciel, donc du soleil, on va commencer par les bonnes nouvelles pour les Pyrénées et surtout près de la Méditerranée, avec un mistral et une tramontane qui vont souffler fort toute la journée. Pour les autres, vous avez raison, c'est nuageux avec de faibles averses pour le nord-est ce matin. Retour au sec sur ce secteur cet après-midi, mais avec un ciel encore bien couvert. De la neige sur les reliefs à basse altitude, les reliefs de l'Est. Et puis une nouvelle perturbation qui arrive par l'Ouest et qui gagnera la région centre et le Nord dans l'après-midi avec de la pluie.
Merci Céline. Eva.
Oui, alors que la 34e campagne des Restos du Cœur débute aujourd'hui,
Alléluia.
On vous a demandé si vous continuez à envoyer l'argent notamment aux associations.
Mais
c'est parce que je vous regarde, je suis un peu
émue.
Eh bien, beaucoup d'auditeurs nous répondent qu'ils donnent aux Restos du Cœur, comme Carlisa. Et puis, depuis le décès de sa sœur, elle donne également au centre de cancérologie où elle avait été soignée. Puis Jérémy, lui, il nous dit que c'est lors des collectes alimentaires en magasin où il donne quelques denrées achetées pour les associations. Et puis, il est aussi bénévole dans un stade de foot, n'importe quoi. Dans
oui, mais pourquoi pas.
Éducateur bénévole foot, oui, pour la section féminine du stade Olonnais. Ça fait un petit peu de pub, il m'a dit, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1. Continuez à nous envoyer vos messages.
Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre rendez-vous santé avec le docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu.
Alors Marcel, ça peut être tentant en ce moment de prendre des compléments alimentaires pour garder la forme. Vous nous dites toujours qu'il est inutile de consommer ce genre de compléments.
Oui, il est inutile. On nous vend des vitamines A, C, D, du sélénium, du zinc, etc. pour garder la forme.
Mais ça ne peut pas être mauvais.
Ben si, ça peut être mauvais.
Ah bon.
Ça peut être mauvais. Alors pourquoi d'abord repréciser les choses. Les vitamines sont indispensables, mais elles sont apportées par l'alimentation. Donc il est inutile d'en prendre, sauf cas bien particulier de carence pathologique où là, il faut doser la vitamine pour pouvoir nous supplémenter. Mais hors ces cas-là, ça ne sert à rien et ça peut être même dangereux, voire toxique, en cas de surdosage. Et les surdosages sont fréquents parce que les gens ont l'impression de se faire du bien en bouffant des vitamines tous les matins. Et c'est d'ailleurs un peu dans l'inconscient collectif, quoi. Vitamines, on va avoir la forme, ça va nous booster.
Par exemple, on peut prendre trop de vitamine C.
On peut prendre trop de vitamine C. Alors, la vitamine C, c'est un peu particulier parce que toute la vitamine C que vous prenez, pardonnez-moi l'expression, mais vous la pissez dans les heures qui suivent.
Elle donc, s'élimine d'elle-même.
La vitamine C, c'est pas le pire. Sauf que pendant le moment où vous la consommez, vous pouvez être un peu excité. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois, sauf pathologie avérée. Et puis, il peut y avoir des effets d'interaction avec d'autres médicaments. Ah empêchant l'efficacité du médicament.
Oh, je sens que vous avez parlé du tabac.
Et avec le tabac, bah pour le bêta-carotène, qui est une substance, un complément alimentaire, peut avoir un effet néfaste favorisant des cancers chez le sujet fumeur. Donc, vous voyez, les vitamines ne sont pas du tout quelque chose d'anodin. Et hors pathologie ou carence avérée, c'est pas la peine. Mangez normalement, mangez équilibré, vous aurez tout ce qu'il faut.
Merci beaucoup, Marcel Hichot. On se retrouve demain, 5h40.
Europe 1.
Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui se refuse à choisir entre l'info et l'humour et qui vous offre donc chaque matin le beurre, l'argent du beurre. Et pour le dire en des termes convenables dans un monde post-Weinstein, des relations consenties avec la crémière.
Ah, le cochon !
À suivre, la culture sur un plateau d'argent avec une équipe en or. Les experts du service culture d'Europe 1 vous donnent rendez-vous dans Mardi les bons tuyaux pour un tour d'horizon culturel qui vous laissera baba. On dit ça en 2018 ? Je ne sais pas, Ginette Garcin le disait beaucoup, eux moins. Voici Big Flo et Oli sur Europe 1, plus tard, extrait de leur nouvel album.
Big Flo et Oli, tu connais non ? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard.
Big Flo et Oli sur Europe 1 avec plus tard, extrait de leur tout nouvel album sorti vendredi.
Il est 5h46. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron doit dévoiler à 10h30 depuis l'Elysée des mesures pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes, des mesures pour la rénovation énergétique comme le retour au crédit d'impôt pour l'installation de fenêtres double vitrage ou encore mieux, réguler la hausse des prix de l'électricité. La sonde américaine InSight s'est posée hier soir sur Mars, aboutissement de 7 ans de travail pour la NASA et de 7 mois de voyage pour le véhicule spatial. Le sismomètre français qu'elle transporte va maintenant effectuer des relevés sismiques pour mieux comprendre comment est née la planète Mars. Enfin, le foot, les Lyonnais croient en l'exploit ce soir contre Manchester City en Ligue des Champions. Une victoire permettrait aux Rodaniens de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 27 novembre. Et tout de suite, on file direction l'hippodrome de Deauville et plus précisément la buvette de l'hippodrome de Deauville où nous attend notre spécialiste hippique José Coves. Hier, en tout cas, c'est là qu'il était visiblement.
Oui,
c'est formidable.
Oui. Bonjour José Covès.
Allez, une tournée pour tout le monde. À Deauville, les 16% des parts de la cinquième course vont galoper sur la piste en sable fibré. Tout de suite, mes cinq préférés. D'abord, le 8 Rubens, il est sur sa meilleure rampe de lancement. Le 13 Caio Coco, une pouliche au vrai potentiel, a une chance réelle. Le 14 Willem n'a que de bonnes notes sur son CV, c'est la valeur sûre. Puis le 10 Golden Raja, sa dernière prestation lui donne ici le droit de gagner. Quant au 5 Pachkadador, sa constance est exemplaire. Trois autres possibilités. Le 2 Crépuscule des Dieux avec Pierre-Charles Boudreau en pole position dans la course à la cravache d'or. Puis le numéro 1, In the Lop, le roi du bac à sable. Et enfin le 12, Zariano, un cinquième tout à fait présentable. Voici donc mon ticket pour la cinquième course vers 13h47. D'abord le 8, le 13, le 14, le 10 et le 5. Et l'on ajoute le 2, l'As et le 12.
Vous avez évoqué la course à la cravache d'or. On peut en savoir plus ?
La cravache d'or récompense le jockey ayant remporté le plus grand nombre de victoires en France durant la saison de plat. Aujourd'hui, Pierre-Charles Baudeau et Christophe Soumillon sont à égalité avec 158 victoires. Cet après-midi, ils seront en selle le premier sur le 2 Crépuscule des Dieux et le second sur le 10 Golden Raja. Pour ces deux premiers de la classe, ce sera chaud de voir. Et puis, Mathieu, quand on a bourre un, il y en a bourre deux.
La fameuse, mais j'ai eu très peur parce que la cravache d'or, vous savez, c'est aussi une compétition qui est réalisée dans un établissement parisien qui s'appelle Les Chandelles et où Eva Rock gagne souvent. C'est pour ça que
mais
j'avais peur.
Oh là là,
merci
pas,
José Covès.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ce type est fou, hein.
Mais personne ne le croit. Mais
vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continuez avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Et baroque pour les écrans. Cravache d'or 2013, 2014, 2016, 2018. Grégoire Martinez pour les nouvelles technologies et le plus impitoyable spécialiste musique qui soit. Il soupire à chaque nouvelle création de Juliette Armanet, crie au déjà-vu devant chaque nouveau tube de Imagine Dragons. Il pense que Big Flo et Oli est un type de pizza. Dernièrement,
ouais,
même le pourtant talentueux Georges Ezra n'a pas trouvé grâce à ses yeux.
Il a trouvé une phrase, lui.
Bonjour Thierry Desfrotin.
Bonjour Mathieu. Je ne dis pas que des sottises.
Ce matin, vous nous parlez d'un compositeur que pour le coup vous trouvez assez bon, Maurice Ravel, qui se retrouve sous le feu des projecteurs pour trois raisons.
Oui, alors la première raison, c'est la publication de l'intégralité de la correspondance et des écrits de Ravel, près de 1800 pages. Hein. Vous savez, le papier Bible là, plus de 2600 documents réunis par Manuel Cornejo. Ça fait un gros bouquin chez Le Passeur Éditeur, 45 euros.
Le livre
on entre
sublime.
Dans la vie. On entre dans la vie. Alors là, ce que j'ai sous les yeux, ce que vous avez sous les yeux, c'est autre chose.
Ah,
et c'est la
chose.
Deuxième raison impressionnante aussi, c'est la publication du premier volume de la Ravel édition, premier volume consacré au.
La marche turque.
Bon, vous sortez. Au boléro, évidemment. Et dans ce volume, il est magnifique. Hein, c'est vraiment.
Il est sublime.
C'est un très bel objet,
ça,
comme on
dit. C'est un très beau cadeau de Noël. Je lance l'idée comme
ouais,
ça.
62
la table.
Euros.
Ça
et c'est vraiment un très bel objet. Vous trouvez non pas une, mais deux partitions du boléro. La version ballet qui est inédite et la version concert. Vous avez aussi un texte de présentation, une discographie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein, vraiment. Hein.
C'est fabuleux. Et la troisième raison dont vous nous parliez.
La troisième raison. Elle est en lien direct avec le boléro. Mais je dois le dire, beaucoup moins musical, c'est la suite d'un feuilleton judiciaire qui oppose la SACEM à des héritiers de Ravel qui contestent le fait que l'œuvre soit tombée dans le domaine public depuis plus de 2 ans et donc ne leur rapporte plus aucun euro.
Mais les héritiers en question. Il n'y a pas des règles strictes,
ah,
sais,
si,
après 100 ans.
Vous allez voir, je vais tout vous expliquer en quelques mots. Les héritiers en question, ce sont d'abord les descendants du décorateur d'origine du ballet, je vous ai dit que c'était donc aussi un ballet, qui veulent obtenir de la justice que leur aïeul soit reconnu comme. Co-auteur de l'œuvre. Comme il est décédé en 1960, cela reviendrait à prolonger le droit d'auteur jusqu'en 2039, donc des euros qui commenceraient à retomber. Autre héritier intéressé dans l'affaire, et dans cette nouvelle action en justice, la succession Ravel. Deux personnes, en l'occurrence, dont l'une est, écoutez bien, la fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel. Non, j'invente pas,
c'est
je vous assure. Je vous le redis. La fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel, le frère du compositeur qui a hérité des droits sur les œuvres, car Maurice Ravel, célibataire et sans enfant, est décédé en 1937 sans descendant direct. Voilà. Et face à ce nouveau développement judiciaire révélé il y a quelques jours par le Figaro, la SACEM se déclare très sereine. Et l'audience aura lieu le 18 février 2019.
Merci beaucoup Thierry Geffretin. À vos côtés, un jeune homme qui, à votre image mais sans votre expérience, a lui aussi la critique facile. Exemple hier, ou alors que la plupart de mes collègues saluaient un premier 5-7 dans nos nouveaux locaux, globalement réussi, Grégoire Martinez, lui, se distinguait par sa méchanceté, voire sa mesquinerie.
Le carillon de 5 heures, c'est un peu compliqué.
Il se croit malin.
Grégoire, que ça a été monté
outre,
quand même.
Outre la vilainie, je crois savoir que votre autre spécialité, c'est Internet. De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Je vais vous parler de Google, parce que bientôt, vous n'aurez peut-être plus qu'un seul résultat quand vous faites une recherche sur Google. C'est déjà le cas pour certaines requêtes en anglais. Alors évidemment, ce sera pour des recherches bien spécifiques, celles où Google est sûr d'avoir le bon résultat d'un seul coup. On va prendre un exemple, Mathieu. On va dire que vous n'êtes pas très bon en maths et que vous cherchez sur Google 2x2. Google est sûr d'avoir la réponse.
Même c'est 4. Il continue à se foutre de ma gueule, le petit insolent. J'ai un bac S, mon petit.
Ce sera la même chose. Hein, si vous demandez l'heure dans un autre pays, vous n'aurez qu'une seule réponse. Et puis une seule réponse aussi si vous cherchez la hauteur d'un bâtiment célèbre, par exemple.
Et c'est quoi l'intérêt pour Google?
D'abord, c'est de simplifier ses résultats de recherche pour que ce soit plus lisible pour les internautes et donc que vous ayez encore plus envie de rechercher sur Google. Ça va vous encourager potentiellement à l'utiliser encore plus. Et puis, il y a certainement aussi une volonté d'harmoniser les résultats entre ceux du moteur de recherche classique que vous allez avoir sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et puis les résultats de recherche qu'on a via l'assistant vocal de Google, vous savez, celui qui vous donne des réponses à la voix, parce que lui, il ne vous donne par défaut qu'une seule réponse, de toute façon. Alors, malgré tout ça, ça n'a pas que des avantages, loin de là, parce que ça veut dire que l'internaute a moins de choix, qu'on ne vous donne qu'une seule vision et que s'il y a une erreur sur le résultat affiché, ce sera très difficile de la repérer. Sur une multiplication comme 2x2, ça ne pose pas de problème, hein, mais sur une recherche plus complexe, ça peut être un peu embêtant. Du coup, il faudra bien surveiller là où Google place le curseur entre les recherches pour lesquelles il n'y a qu'un seul résultat et celles
mais
pour lesquelles il y a tous les résultats.
Ce que je trouve très étonnant dans votre histoire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'abord, dans un premier temps, coupé la poire en deux? Pourquoi passer de millions de résultats à un? On limite à 100 résultats.
Il y avait déjà un peu, vous savez, sur certaines recherches comme 2x2.
Vous voyez toujours un million de résultats.
Oui, mais avant les résultats de recherche, vous avez un encadré tout en haut avec écrit 4, juste.
Mais oui, et puis ça suffit largement.
Bon, il faudra que je retourne un peu sur Internet.
Mais oui.
Ça a peut-être évolué depuis 2002.
Et Maroc, rebrancher votre ordinateur.
On termine avec vous, les écrans.
Oui, depuis quelques jours, une nouvelle offre culturelle est née, ça s'appelle Culture Prime et les Europarents sont l'audiovisuel public, France Média Monde, Arte, Lina et TV5 Monde. Alors ce n'est pas une énième plateforme, les vidéos produites, il y en aura entre 12 et 25 par jour, sont postées sur les réseaux sociaux existants des différentes marques et sur une page Facebook qui est entièrement dédiée pour le coup à Culture Prime. Vous commencez sans doute à vous habituer, vous savez, à ces formats très courts, très rythmés et sous-titrés de vidéos. Je me suis baladée sur la page Facebook en l'occurrence et j'ai trouvé quelques pépites, comme la voix de Jacques Prévert récitant un poème en hommage à Juan Miró.
Sur les murs de la ferme, éclaboussés de sang solaire, rageusement, Miró enfant trace en rêvant, d'un doigt lucide, sûr et tremblant, les plans.
Tout ça illustré avec les dessins de Juan Miró. C'est une archive étonnante qui date de 1973, qui a été libérée par l'INA et qui fait partie de tous les contenus culturels qui sont mis en avant par Culture Prime. Alors, slogan de cette nouvelle offre, la culture, ça se partage. Et c'est vrai que ce type de format de vidéo est facile à poster et reposter. Les sujets sont extrêmement divers. Hein. On part des points communs entre Michael Jackson et le mime Marceau au ballet royal de Suède, en passant par les 90 ans de Mickey. Le seul bémol à cette histoire, c'est que va devenir la plateforme déjà existante Culture Box, que je trouve réjouissante.
Parce que là, c'est une concurrence directe.
C'est une concurrence directe. Delphine Arnaud, la patronne de France Télévisions, a déjà alerté sur le fait qu'il existait trop de marques en la matière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura
surtout sans vous, on s'y perd un peu parmi toutes ces plateformes.
Mais oui, je sais, c'est pour ça que je suis là tous les matins.
Et heureusement que vous êtes là tout le temps avec nous.
Et évidemment, tout ça est gratuit, je tiens à le rappeler.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe de Mardi les Bontuyaux qui se reformera demain dans.
Mardi les
Bontuyaux. Oh la vache, non seulement il est fielleux, mais en plus, il n'est pas compétent. Il n'est pas là, vous n'êtes pas concentré, Martinez. Soyez avec nous. Très bien. Eva, ce stade, tout va bien?
Écoutez, je m'enfonce dans ma folie.
Parfait, on continue.
Il est 5h56, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kallmann.